Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de notre programme. Le pape a présidé mercredi matin dans la basilique Saint-Pierre la messe de mercredi des cendres. Nous en parlons tout à l'heure en actualité de l'Église, une actualité qui nous conduira ensuite au Cameroun et au Sénégal. Nous verrons aussi ce qui a marqué la vie sociopolitique sur le continent africain en nous rendant notamment au Nigeria, au Rwanda, au Tchad. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous et bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, France-Afrique, Jean-Pierre Bojoko.
Le pape a présidé mercredi dans la basilique Saint-Pierre la messe des cendres, marquant ainsi le début du temps de carême. Dans son homélie, François est revenu sur le sens de ce temps liturgique, un voyage de retour à Dieu qui implique de discerner vers où est orienté notre cœur. Dans la vie, a fait remarquer l'évêque de Rome, nous aurons toujours des choses à faire et des excuses à présenter, mais maintenant c'est le temps de revenir à Dieu. Le carême est un voyage qui implique toute notre vie, tout notre être, a poursuivi le Saint-Père, indiquant que le carême n'était pas une collecte de bonnes actions, c'est discerner vers où est orienté notre cœur.
Il viaggio della Quaresima è un esodo. È un esodo dalla schiavitù alla libertà. Sono 40 giorni che ricordano i 40 anni in cui il popolo di Dio viaggiò nel deserto per tornare alla terra di origine.
Le voyage du carême est un exode de l'esclavage à la liberté. Ce sont 40 jours qui rappellent les 40 années durant lesquelles le peuple de Dieu a voyagé dans le désert pour retourner à sa terre d'origine. Le voyage de retour à Dieu est entravé par nos attachements malsains. Il est retenu par les liens séduisants des vices, par la fausse sécurité de l'argent et du paraître, par la lamentation d'être victime qui paralyse. Pour marcher, a souligné le pape, il faut démasquer ses illusions.
Per camminare bisogna smascherare queste illusioni.
Pour ce faire, a indiqué le Saint-Père, la parole de Dieu nous vient en aide. La parabole du Fils prodigue qui aide à comprendre qu'il est temps pour nous aussi de revenir vers le Père. Le pardon de Dieu est en effet ce qui nous remet toujours debout. Ce pardon, a-t-il souligné, est le premier pas de notre voyage de retour. Dans ce cheminement, a exhorté François, nous avons besoin aussi de revenir vers Jésus comme le lépreux qui se jeta à ses pieds. Nous avons besoin, a précisé le pape, de mettre devant lui nos blessures et lui dire « Jésus, je suis ici devant toi avec mon péché, avec mes misères. Tu es le médecin, tu peux me libérer, guéris mon cœur. »
Serve metterli davanti le nostre ferite e dirle Gesù, sono qui davanti a te, con il mio peccato, con le mie miserie. Tu sei il medico, tu puoi liberarmi, guarisce il mio cuore, guarisce la mia lebbra.
Aujourd'hui, nous baissons la tête pour recevoir les cendres. À la fin du carême, nous nous abaisserons encore plus pour laver les pieds de nos frères, a conclu le Saint-Père. Le carême est une descente humble au-dedans de nous-mêmes et vers les autres. La Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a envoyé mercredi une note signée par le cardinal Robert Sara aux évêques et aux conférences épiscopales concernant les célébrations de la Semaine Sainte 2021. La commémoration de l'entrée du Seigneur à Jérusalem le dimanche des Rameaux doit être célébrée à l'intérieur du bâtiment sacré, dans les églises et cathédrales. La deuxième forme prévue par le missel romain doit être adoptée, alors que dans les églises paroissiales et autres lieux, la troisième est recommandée, précise la dite note. Le jeudi saint, le lavage des pieds déjà facultatif doit être omis. À la fin de la messe, lors de la scène, la procession doit également être omise et le Saint-Sacrement doit être conservé dans les tabernacles. Ces jours-là, les presbytres ont exceptionnellement la faculté de célébrer la messe dans un lieu approprié sans foule. Le vendredi saint, dans la prière universelle, les évêques veilleront à préparer une intention spéciale pour ceux qui sont dans une situation de perte, les malades, les morts. L'acte d'adoration de la croix par le baiser doit être limité au seul célébrant. La vigile de Pâques sera célébrée exclusivement dans les églises cathédrales et paroissiales. Pour la liturgie baptismale, seul le renouvellement des promesses baptismales doit être respecté. Monseigneur Rodrigo Mejía Sabdariaga, vicaire apostolique émérite de Sodo en Éthiopie, a ordonné diacre le samedi 13 février dernier 25 scolastiques et jésuites ainsi que prêtre le Savérien Père Vincent Omondi Ochieng. La messe a été célébrée à l'esplanade de la communauté jésuite Hekima University College. Dans son homélie, Monseigneur Meïa a invité les ordinants au sens du service. Les ordres sacrés, a-t-il dit, sont en effet conférés pour être au service du peuple de Dieu. De ce fait, ils sont une catégorie de service et non de pouvoir. En présentant l'exemple de Saint Laurent, le célébrant du jour a exhorté les candidats au diaconat à vivre intensément ce temps de diaconat. Quoique transitoire, le diaconat ne disparaît pas avec le sacerdoce, a en outre fait observer Monseigneur Mejía en attirant l'attention du candidat prêtre. D'habitude, une cérémonie de toutes les retrouvailles, les ordinations de cette année se sont déroulées dans l'intimité des jésuites en raison du contexte sanitaire actuel. C'était une cérémonie somme toute belle qui s'est déroulée dans un climat de grande dévotion et de profondeur spirituelle. Rendons-nous au Cameroun où notre correspondante locale nous rend compte de la messe des cendres dans l'archidiocèse de Douala.
En ce carême 2021, la réconciliation semble constituer l'effort de carême des fidèles au Cameroun en tant que communauté de croyants appelée à l'unité et à la conversion des cœurs. Pour l'archevêque de Douala, Mgr Samuel Kleda, il s'agit de s'activer dans les efforts de paix afin de se réconcilier chacun avec son Dieu, avec le prochain et avec soi-même. L'espoir est donc assez perceptible quant à la prise de conscience générale sur le fait que l'option de la violence et de la guerre fratricide endurcit les cœurs, retarde le développement et enténèbre la vie familiale et chrétienne. En ce qui concerne le côté pratique du rite de l'imposition des cendres, il a été particulièrement difficile d'observer les gestes barrières destinés à lutter contre la pandémie de la COVID-19. Les églises étaient pleines à craquer, comme d'habitude en de pareilles circonstances. Quelques fidèles arboraient leurs masques et les cendres étaient imposées sur le front des enfants, des jeunes, des adultes et des personnes âgées, avec la formule habituelle « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Les 40 jours de pénitence s'annoncent donc effectifs au Cameroun. Les fidèles espèrent un renouvellement total dans toutes les sphères de la vie personnelle, professionnelle, familiale, ecclésiale et nationale. Paul Valéry Mondogo de Douala pour Radio Vatican.
Au Sénégal, la paroisse Notre-Dame de Lourdes dans le diocèse de Saint-Louis a célébré le dimanche dernier sa fête patronale. Reportage.
La paroisse Notre-Dame de Lourdes, dans le diocèse de Saint-Louis, a célébré sa fête patronale ce dimanche 14 février. La messe a été présidée par l'ordinaire du lieu, Mgr Ernest Sambou. Dans son homélie, Mgr Sambou a exhorté les paroissiens au respect des gestes barrières et au courage en cette période de pandémie.
Il faut vivre ces moments difficiles avec la tête haute. Parce que nous croyons en un Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, à qui rien n'est impossible. Ainsi donc, notre foi et notre espérance en Dieu, en Jésus, Fils de Marie et en l'Esprit Saint, nous évite tout découragement, encore moins tout désespoir. Nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, dont l'intercession est efficace par Marie. L'Immaculée Conception, nous louons et glorifions le Seigneur, notre Dieu, qui nous a donné cette vie et qui la protège.
Au thème de la messe, le curé de la paroisse, l'abbé Louis Gomis, a mis en lumière la place centrale accordée à la prière pour les malades en cette célébration.
Durant cette solennité, nous avons pensé aussi aux malades de la paroisse et aux malades de toutes les familles, afin que Dieu leur accorde la santé de l'âme et du corps. Et nous avons invité donc les paroissiens à demander l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, car elle continue de veiller sur nous.
Clément Arwandino Dakar pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le président nigérian a ordonné mercredi aux forces armées et à la police de ramener immédiatement tous les captifs indemnes, 42 personnes dont 27 élèves victimes d'un nouvel enlèvement par un groupe armé dans un pensionnat du pays, 2 mois après le rapt massif de 344 adolescents dans une région voisine qui avait provoqué un émoi mondial. Des hommes armés ont attaqué le collège et lycée gouvernemental de Kagara, un pensionnat situé dans l'état du Niger. Au moins 35 personnes ont été tuées, dont un militaire, dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le sud du Tchad, en proie à des conflits meurtriers entre ces communautés, a indiqué mercredi Mar Ahmad, le secrétaire général de la province. Selon ces derniers, les cultivateurs ont été attaqués par des coupeurs de route. Cette attaque a fait un mort et 2 blessés. En représailles, les cultivateurs qui accusent les éleveurs d'être responsables ont attaqué lundi une zone où vivent les éleveurs dans la province du Salamat, dans le sud-est du Tchad. Restons toujours dans cette sous-région. Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, de retour du sommet de G5 Sahel à N'Djamena, a déclaré mardi qu'il fallait imposer la paix au Mali, les armes à la main, affirmant que les chefs d'État s'y étaient accordés sur la nécessité d'un mandat plus robuste pour la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. Les chefs d'État du G5 Sahel, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad et Burkina Faso, étaient en effet réunis lundi et mardi pour un sommet à N'Djamena au Tchad, auquel s'est joint le président français Emmanuel Macron en vidéoconférence, afin de faire le point 1 an après le sommet de Pau en France sur la situation géopolitique au Sahel. Des Libyens ont célébré mercredi le 10e anniversaire du début de leur révolution qui a renversé le régime de Muammar Kadhafi en 2011. Dans les principales villes de la Tripolitaine, grande région de l'Ouest, les autorités locales avaient prévu plusieurs célébrations avec discours, chants et feux d'artifice. La flamme inaugurant les célébrations officielles a été allumée 2 mardis soir sur la place des Martyrs en présence du chef du gouvernement d'Union nationale, Faez al-Sarraj. Les États-Unis d'Amérique ont averti mardi que malgré la pandémie de COVID-19, le monde ne pouvait se permettre de détourner le regard après l'apparition dernièrement de cas d'Ebola en Guinée et en République démocratique du Congo. La porte-parole de la Maison-Blanche, Jane Psaki, a indiqué en effet qu'Ebola était réapparu au même moment en Afrique centrale et de l'Ouest, promettant que Washington travaillerait avec les gouvernements touchés et l'Organisation mondiale de la santé. Le monde ne peut pas se permettre de détourner le regard. Nous devons faire tout notre possible pour répondre efficacement et vite, a ajouté la porte-parole de la Maison-Blanche. Par ailleurs, le gouvernement américain a approuvé mardi une vente d'armes de près de 200 millions de dollars à l'Égypte, mais s'est engagé à faire pression sur la question des droits de l'homme après qu'un militant américain a évoqué un harcèlement de sa famille. Au moins 16 corps ont été repêchés des eaux du fleuve Congo après le naufrage d'une péniche surchargée dimanche en République démocratique du Congo, alors que plusieurs autres corps restent coincés dans les débris de l'embarcation, selon un des comptes mercredi de la Marine et de la Croix-Rouge congolaise. Nous avons secouru 125 personnes, nous avons repêché 16 corps, a en effet déclaré Papi Kamalubanda, commandant de la force navale congolaise dans cette zone et chef des opérations de sauvetage. Parti dimanche du port fluvial de Maluku près de Kinshasa, la péniche appelée Baleinière en République démocratique du Congo, surchargée de passagers et de marchandises, se rendait à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, selon des témoignages des rescapés.
Radio Vatican, France-Afrique, Jean-Pierre Bojoko.
Le procès de Paul Rusesabagina, héros du film Hôtel Rwanda, s'est ouvert mercredi à Kigali lors d'une séance qui a vu l'ancien hôtelier et ses avocats contester la compétence du tribunal où il est notamment jugé pour terrorisme. Appelé à la barre pour s'identifier, Rusesabagina a fait valoir sa nationalité belge. Je vais le répéter comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois, je ne suis pas rwandais, je suis belge. Le dossier devrait le mentionner, a-t-il déclaré. Les avocats de Rusesabagina accusent le régime rwandais de l'avoir fait enlever. L'ONG Human Rights Watch a également dénoncé une disparition forcée. Paul Rusesabagina est visé par 13 chefs d'accusation, dont ceux de terrorisme, meurtre et financement de rébellion. Il comparaît avec 20 autres personnes. Le vice-président de la région semi-autonome de Zanzibar, Seif Sharif Ahmad, est décédé à l'hôpital national Muhimbili à Dar es Salaam, où il était hospitalisé, ont annoncé mercredi les autorités, 3 semaines après la révélation de son hospitalisation en raison de COVID-19. La nation a perdu un patriote, je déclare 7 jours de deuil et le drapeau national sera en berne pendant ces jours, a déclaré Ali Hassan Mwinyi, président de Zanzibar. Dans un message publié sur Twitter, le président de la Tanzanie, John Magufuli, a également exprimé ses condoléances à la famille de M. Ahmad et à son parti. Un porte-parole du ministère soudanais des Affaires étrangères a indiqué que son pays avait rappelé mercredi son ambassadeur en Éthiopie pour des consultations au sujet des relations soudano-éthiopiennes.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Organisation internationale et solidarité, c'est le magazine que nous présente Donatien Nyembo.
Les organisations internationales au service de la coopération, du développement et de la solidarité entre les peuples.
Notre magazine de ce jour sur les organisations internationales et la solidarité se propose de revenir sur les recommandations de l'Organisation internationale pour les migrations, OIMI en sigle, à la présidence du Conseil de l'Union européenne. Dans ses recommandations, l'Organisation internationale pour les migrations présente 4 propositions politiques ciblées qui mettent en avant une mobilité humaine bien gérée et des actions centrées sur la communauté comme étant les principaux facteurs contribuant à la réalisation d'une Europe mondiale numérique, sûre et résiliente. Nos recommandations convergent vers l'idée que l'intégration de la migration et la réimagination de la mobilité dans tous les secteurs, y compris la santé, le climat, le développement et l'agenda numérique, peuvent nous aider à tirer parti de la pandémie et à renforcer notre approche de défis qui se profilent à l'horizon, a déclaré Antonio Vitorino, directeur général de l'OIM. Il est crucial pour les migrants comme pour les sociétés que la présidence fasse avancer les négociations pour concrétiser les principes clés du pacte sur la migration et l'asile proposé par la Commission européenne en septembre dernier, a-t-il ajouté. Il sera essentiel de trouver des moyens de faciliter la mobilité des personnes et le commerce transfrontalier de manière coordonnée pour sortir de la récession économique engendrée par la COVID-19. Cela permettrait également aux migrants de continuer à contribuer au développement durable à long terme des pays d'origine et des pays d'accueil. L'Organisation internationale pour les migrations encourage donc la présidence portugaise à adapter les programmes d'immigration et de gestion de frontières de manière coordonnée en tenant compte de la santé et en se tournant vers l'avenir. La transformation de l'Union européenne en une Europe numérique peut être le moteur du déploiement d'outils numériques innovants qui soutiennent le processus des migrations, renforce la sécurité et la protection de l'identité et permettent un passage sans contact qui réduit les risques sanitaires. L'investissement collectif dans la sécurité sanitaire mondiale et la coordination de celle-ci par-delà les frontières et les secteurs seront essentiels pour garantir qu'aucun pays ne soit déconnecté de la mobilité humaine mondiale à l'avenir, a souligné M. Vitorino. Dans le même fil d'idées, les relations de l'Union européenne avec ses partenaires africains peuvent être améliorées en soutenant le renforcement des capacités de gestion de frontières, ce qui contribuerait à faciliter la mobilité intra-régionale en Afrique et à stimuler la prospérité économique. L'Organisation internationale pour les migrations souligne que la coopération au développement de l'Union européenne ne doit pas être conditionnée par les retours et les réadmissions, ni être axée en priorité sur les seuls intérêts de politique intérieure de l'Union européenne. Au contraire, il sera important de promouvoir l'inclusion systématique de l'aide à la réintégration comme force de stabilité dans les communautés de retour et comme pont entre le retour des migrants et les développements durables. L'Organisation internationale pour les migrations souligne également l'importance de renforcer les voies de protection sûres et légales. Pour faire preuve de solidarité avec les pays partenaires, l'OIM appelle à un dialogue entre les États membres de l'Union européenne afin d'accroître les efforts de réinstallation et de relocalisation dans un cadre européen durable et prévisible. Enfin, une Europe résiliente s'appuiera sur des voies de migration flexibles et accessibles, fondées sur les compétences qui soient mutuellement bénéfiques, ciblent les migrants à tous les niveaux de compétences et protègent leurs droits. L'OIM estime qu'il sera tout aussi important de renforcer la cohésion des sociétés et des communautés européennes en faisant progresser l'intégration de migrants par une plus grande inclusion sociale. Le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations a souligné que le succès de la reprise et au-delà dépendra de la manière dont nous inclurons les personnes en mouvement dans notre planification. Aujourd'hui, par exemple, cela signifie inclure les migrants dans les programmes de vaccination anti-Covid-19 européens et nationaux afin de garantir la santé et la sécurité de tous. L'OIM est prête à aider la présidence, l'Union européenne et ses États membres à mieux coopérer pour assurer une migration sûre, ordonnée et régulière.
Place à la culture avec Françoise Niamien.
Notre rubrique s'ouvre par le Cameroun, où s'est tenue du 11 au 13 février dernier à Yaoundé la 4e édition des Journées du Jeune Cinéaste, organisée par l'association Cinécamer, présidée par Maïmounatou Bouzaka, journaliste blogueuse. L'enjeu de ces journées est d'accompagner les jeunes cinéastes locaux à développer leurs compétences en même temps qu'amener les publics camerounais et africains à comprendre, aimer et soutenir les productions locales. La 4e édition des Journées du Jeune Cinéaste a proposé une panoplie d'activités liant professionnels et novices. Durant 3 jours, les participants ont réfléchi à l'exploitation du cinéma en tant que vitrine du développement économique ainsi que l'image de la réputation d'un pays. Pour l'édition 2021, ce sont 24 films de jeunes réalisateurs qui ont été sélectionnés pour être projetés. Des projections associées à des conférences débats, des sessions de formation et des ateliers. Les jeunes passionnés ont bénéficié de conseils de professionnels. À Madagascar, les journées dédiées à la création et à la mode, Miami Mada Fashion, organisées par le ministère de la Communication et de la Culture malgache, ont pris fin le dimanche 14 février dernier. À l'issue de ces journées, 23 acteurs ont été nommés dans l'Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture. 5 artistes ont reçu le titre honorifique de commandeur, 7 le titre d'officier et 11 autres nommés chevaliers. Outre cette nomination, la dernière journée était également marquée par la revue massive des visiteurs pour assister au masterclass dédié au mannequinat. Le ministère de la Culture malgache a promis une prochaine édition encore plus prometteuse en 2022. En Côte d'Ivoire, la 40e édition du Popo Carnaval de Bonnois aura lieu du 5 au 18 avril 2021. La cérémonie de lancement de l'édition 2020 de ce grand rendez-vous culturel de Bonnois, ville située dans la région du sud-est de la Côte d'Ivoire, a eu lieu le jeudi 11 février dernier dans un hôtel d'Abidjan Plateau. Ce carnaval, après un an d'absence due à la pandémie de coronavirus, aura pour thème Popo Carnaval de Bonnois, 40e édition au service du développement culturel et touristique dans une Côte d'Ivoire unie. Selon le commissaire général du carnaval, Paul Kakou, cette édition sera célébrée dans le strict respect des mesures barrières de lutte contre la pandémie et sera meublée de concours culinaires, de beauté, de concerts, d'une retraite au flambeau. Une foire gastronomique et commerciale et un défilé carnavalesque, un festival de jeux traditionnels, de journées destinées aux femmes et aux enfants sont également prévus. Selon les organisateurs, les innovations sont entre autres l'initiation d'une journée de l'organisation du peuple Abouré, peuple autochtone de Bonois, d'une campagne de lutte contre la pandémie de COVID-19, l'instauration d'un prix du meilleur journaliste. Initié en 1972, le Popo Carnaval, dont Popo signifie masque en langue abourée, a pour objectif, entre autres, d'offrir une plateforme de rencontre, d'échange et de brassage des peuples, de valoriser et promouvoir le patrimoine touristique, de contribuer au leadership économique de la Côte d'Ivoire à travers la culture. L'écrivain et metteur en scène sénégalais Mamadou Seiba Touré déclare son amour pour Gorée dans un recueil de poèmes consacré à l'île, située à 3 km au large de Dakar au Sénégal, dont la mémoire des âmes errantes symbolise pour l'auteur la terre-mère. Ce recueil de 57 pages vient d'être publié grâce au fonds d'aide à l'édition du ministère de la Culture et de la Communication. Mamadou Seiba Traoré évoque dès l'entame du livre son attachement au petit théâtre de Gorée. Il s'approprie la symbolique de cet espace pour exorciser la douleur de l'esclavage et le gémissement des ancêtres arrachés à la terre-mère. Il retrace aussi la douloureuse période de l'esclavage à travers une mise en scène entre une femme et un homme, séquencée de 3 chants aux paroles denses par le biais de 3 points de repère dénommés déchirure, bannissement et résurrection.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme. Aujourd'hui, au nom de toute l'équipe du service français Afrique de Radio Vatican, Jean-Pierre Bodjoko vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Le rendez-vous, c'est pour demain, même heure, même fréquence, même radio.